Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio VM. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. On va aller aux États-Unis, un pays qui se cherche un juge pour compléter le total de 9 magistrats à la Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays. Le candidat de Trump, Brett Kavanaugh, est accusé d'agression sexuelle et d'autres inconduites par des femmes dont le nombre grandit au fur et à mesure que les échéances approchent, on dirait. Aujourd'hui a donc lieu, ou a eu lieu juste à l'instant, l'audition du candidat ou surtout l'accusatrice Christine Margaret Blasey Ford, professeure de psychologie à l'Université de Palo Alto, qui justement accuse le candidat Brett Kavanaugh de l'avoir à tout le moins harcelé ou agressé sexuellement. Voilà, quels sont, de façon plus globale, quels sont les enjeux de cette nomination alors que les élections de mi-mandat approchent? Pourquoi ces accusations arrivent-elles 30 ans après les faits et juste avant la nomination en question? Et de façon plus générale, dans le pays qui a vu naître la libération sexuelle, quel camp est le plus conservateur, les républicains ou celui démocrate, pour lesquels exhiber son sexe au visage d'autrui est déjà une agression, surtout quand on est un homme? Le point avec le professeur Norman Cornett, bien connu des auditeurs de Radio VM et connu pour ses entretiens dialogiques. Norman Cornett, bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation, Monsieur Trottier.
Nous n'avons que 19 minutes pour parler d'un sujet qui prendrait des heures. Venons-en vraiment à l'importance de la nomination d'abord, oublions que c'est Brett Kavanaugh, la nomination d'un juge à la Cour suprême des États-Unis, c'est pas n'importe qui peut prendre le boulot et la nomination a des conséquences énormes.
Oui, dans un premier temps, il faut voir le contexte, surtout depuis l'élection de Donald Trump. Il y a 3 branches du gouvernement fédéral aux États-Unis. D'abord la branche exécutive, soit la présidence. Deuxièmement, la branche législative composée du Sénat et la Chambre des représentants qui ensemble constituent le Congrès américain. Et la troisième branche, celle judiciaire, et dont l'incarnation, c'est la Cour suprême des États-Unis. Et je tiens à souligner à l'auditoire de Radio VM que le véritable champ de bataille lors de la campagne présidentielle de 2016 est encore maintenant à quelques semaines des élections du mi-mandat, eh bien c'est la branche judiciaire. C'est ça l'enjeu principal, c'est pour cela qu'on a élu Donald Trump et c'est pour cela que Donald Trump a nommé un conservateur, Neil Gorsuch, et il peut dire haut et fort, j'ai tenu ma parole que j'allais nommer à la Cour suprême des États-Unis des juges conservateurs, et ça dans tous les sens, sur le plan moral, sur le plan éthique et sur le plan juridique.
Mais alors, quand on nomme un juge, c'est à vie qu'il est nommé en général, quoique le juge, je pense, peut démissionner, mais Anthony Kennedy, c'était le prédécesseur de celui qu'on pensait qui allait rentrer, Brett Kavanaugh. Les choses sont beaucoup plus compliquées actuellement. Et on a pour l'instant 4 juges conservateurs et 4 juges, dirais-je, progressistes. Enfin, j'aime pas le mot, mais enfin, progressistes versus conservateurs. Et le 9e ferait pencher la balance à droite ou à gauche. C'est ça l'enjeu?
Oui, à droite. Il y a des choses importantes à souligner. Dans un premier temps, dans la Cour suprême du Canada, ce n'est pas à vie. Il faut prendre la retraite. Dans un deuxième temps, on ne politise pas, on n'instrumentalise pas la nomination d'un juge à la Cour suprême du Canada. Or, quand j'étais aux États-Unis il y a quelques semaines à San Diego, à ma plus grande surprise, je voyais passer les annonces, et ça c'est bien avant le scandale qui éclate là maintenant, je voyais des annonces à la télévision qui coûtent des millions de dollars aux États-Unis. Brett Kavanaugh, son épouse, ses 2 filles, et l'idéal. Or, vous vous imaginez dans un contexte canadien faire passer des pubs pour un candidat à la Cour suprême du Canada?
Effectivement.
Ça ne se fait pas, mais on instrumentalise, c'est tellement devenu, on politicise cette branche judiciaire en point tel qu'il existe en réseau Judicial Crisis Network, qui là, ce week-end qui vient de passer, ils ont dépensé encore des millions de dollars pour contrecarrer ces accusations.
Autre élément de contexte, Normand Cornette, c'est les élections de mi-mandat qui vont, traditionnellement, le président en exercice subit une défaite. Ces élections, ça va être le 6 novembre prochain. Les Républicains voulaient régler le dossier définitivement pour que Trump puisse montrer à sa base électorale, voilà, j'ai encore livré la marchandise, c'est loin d'être fait. C'est un enjeu crucial pour Trump, cette nomination, avant le 6.
C'est une épée à deux tranchants. Dans un premier temps, le fait de nommer Brett Kavanaugh, et je tiens à souligner que la nomination de Neil Gorsuch, les démocrates, les libéraux, les progressifs, progressifs l'ont contesté. Mais s'il y avait la moindre possibilité de l'accuser comme de l'abus sexuel, on l'aurait fait. Donc, le simple fait qu'il existe un soupçon de doute, c'est comme l'épée de Damoclès, là maintenant, qui pend au-dessus de la tête de Brett Kavanaugh, de sa nomination. Et donc, Brett Kavanaugh et ce siège à combler sur la Cour suprême est devenu le point de repère pour les républicains, pour les conservateurs, pour les évangéliques, pour les catholiques conservateurs et d'autres. Donc, ils veulent rassembler, ils veulent rallier les troupes là maintenant. C'est la raison qu'il faut le faire et d'autant plus qu'ils risquent de perdre la majorité d'abord à la Chambre des représentants et au Sénat
aussi, parce qu'il y a quelques semaines, on se disait le Sénat est élu aux Républicains. Et depuis quelques temps, il paraît que non.
Mais toute cette question de Brett Kavanaugh, ça mobilise les démocrates, ça mobilise les femmes et ça mobilise tout le mouvement, moi aussi, MeToo.
Curieusement, ça ne mobilise pas les hommes qui semblent laisser du « ça va passer, ça va passer ». Le mouvement, moi aussi, ou MeToo, n'a pas suscité beaucoup d'opposition alors que, puisqu'on parle de ça maintenant dans mon cornette, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes également commencent à en avoir un petit peu assez de ce mouvement qui... Il n'y a pas de contre-discours.
J'en suis pas certain.
Vous n'êtes pas certain de ça?
Je crois que c'est le moment de la vérité pour le mouvement,
Soit qu'il casse, soit
qu'il passe. Quand on écoute Christine Blasey Ford, d'abord, elle est posée, elle est crédible. Jusqu'à il y a quelques minutes, elle ne s'est pas versée dans un émoi.
Pas de pathos.
Par contre, et ça je tiens à le souligner, ce que fait valoir ce témoignage de Christine Blasey Ford, et par le fait même, tout le mouvement, moi aussi, c'est de se rendre compte à quel point, même si elle n'avait que 15 ans, au moment de, entre guillemets, l'incident avec Brett Kavanaugh, Mark Judge et d'autres lycéens, même si elle n'avait que 15 ans, ce qui frappe dans le témoignage, et ça va rejoindre tous les gens du mouvement, moi aussi, ça va rejoindre toutes les femmes, c'est que l'abus sexuel, c'est le présent éternel.
C'est-à-dire
que la charge affective, elle reste entière. Reste présente.
Mais alors, Normand Cornette, une autre question, on va élargir le débat ensuite, si le temps nous permet. Il y a 30 ans de ça, et c'est quelques semaines avant la nomination de Brett Kavanaugh que l'affaire, le lapin sort du chapeau. Alors, beaucoup de conservateurs vont dire, c'est instrumentalisé. Et pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait sur le coup? Alors, l'excuse, c'est, je ne voulais pas compromettre les gens, puis je ne voulais pas, moi, avoir honte encore plus, etc. Enfin, que ça, il y a tout un tas de raisons.
Oui.
Mais on sort le truc, et d'autres femmes arrivent ensuite pour dire, et il y en a d'autres, il y en a trois, puis il y a deux autres témoins qui restent anonymes. C'est comme si on multipliait les accusations, mais qui deviennent de plus en plus moins graves. La plus étayée, c'est celle de la première, qui s'appelle, qu'on vient d'entendre d'ailleurs, qui s'appelle Christine Margaret Blasey Ford. Mais d'autres disent, il m'a montré son sexe dans le visage. Est-ce que ça suffit pour faire qu'un candidat à la Cour suprême soit...
Établissons les faits. Dans son premier temps, et c'était ça qui était... Il y a la preuve à faire.
Oui.
Mais ce qui était très intéressant dans le témoignage de Christine Blasey Ford, docteur, professeur à Palo Alto University, c'est qu'on a établi, mais clairement, la chronologie. Alors que nous... Le commun des mortels, on dit, mais on fait ça au tout dernier moment, alors que ça fait quelques mois qu'elle y pense. établissons aussi le fait que deux tiers des victimes d'abus sexuels ne se prononcent jamais. Et pour cause, parce qu'on met tout en jeu. C'est un risque parié.
On met tout en jeu aussi. Patrick Brown, qui était le patron du Parti conservateur en Ontario, a perdu sa chemise. Rien n'est prouvé encore.
Oui, et là...
Ça marche dans les deux sens.
Oui, tout à fait. Et on a un cas de défamation, parce que c'était les médias qui ont sauté sur cette histoire. Et quel en est le résultat? Eh bien, le premier ministre de l'Ontario, c'est Doug Ford. Qui aurait cru cela? Donc, il faut faire très attention. Aussi, faut-il dire... que je crois, si on parle aujourd'hui même, on a fait la part belle à Christine Blasey Ford, aux démocrates. D'abord, il mène d'une main de maître ce témoignage. On voit les sénateurs, sénatrices démocrates. Je parle spécifiquement de Amy Klobuchar du Minnesota, qui est elle-même ancienne procureure, et le sénateur Blumenthal du Connecticut, ancien procureur. Donc, on voit qu'eux, ils ont une expérience, ils savent mener ce témoignage de sorte que... Vous savez, on n'est pas là devant un tribunal. On est là dans l'espace public. C'est télévisé, c'est
Mais
médiatisé.
On a également...
Donc, ce qui importe, c'est peut-être même pas la substance, ce sont les apparences. Or, les apparences, quand on est posé comme cela, et de plus, les républicains, peut-être à leur détriment, on fait la part belle parce qu'au lieu de se parler, parce qu'ils sont tous des hommes, ces sénateurs. Donc, on est...
Ils sont disqualifiés.
L'ambiance est tellement tendue suite au mouvement, moi aussi, MeToo, que les hommes ont... Ils ne veulent pas commettre l'erreur d'accabler cette femme.
C'est pour ça, Normand Cornette, qu'il n'y a pas de contre-discours à moi aussi qui offre une gigantesque caisse de résonance idéologique également pour ce témoignage-là, alors que les hommes n'en ont pas du tout. Ils ont la caisse de résonance des évangéliques, des conservateurs, mais ce n'est pas une caisse de résonance aussi puissante que celle de moi aussi. C'est pour ça que je dis que... beaucoup d'hommes maintenant ont cette épée de Damoclès, c'était votre expression, plus personne n'osera, à moins d'être un eunuque ou à moins d'être pur comme neige, n'osera postuler pour un poste de pouvoir.
Mais ceci dit, les femmes républicaines, les femmes conservatrices s'affichent publiquement et appuient le candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh. Mais là, ce qui est très intéressant, on n'est pas devant un tribunal, on est devant l'opinion publique. Mais regardons la procureure que les républicains, les hommes sénateurs ont choisi. C'est Rachel Mitchell de Phoenix en Arizona, que je connais très très bien puisque mon épouse regrettée était de Phoenix. Eh bien, c'est une femme qui a une fiche de route en tant que procureure spécialisée dans l'abus sexuel, les crimes sexuels. Eh bien, elle-même, elle aurait eu la possibilité de vraiment aller à de tirer à boulet rouge sur Christine Blasey Ford, mais elle aussi, à cause de son expérience, à cause de la charge affective, à cause de la tension qui règne sur cette question. Or, ça change la donne.
Ça change la donne. Le problème, c'est que la charge affective est tellement forte dans ces questions que... la plupart du temps, l'homme est beaucoup moins crédible que la femme qui va l'accuser. Je veux dire, ça, c'est aux États-Unis et un peu partout ailleurs aussi.
Oui, mais Brett Kavanaugh, c'est un homme intelligent, c'est un homme expérimenté. Oui. À lui de faire ses preuves tout à l'heure.
On va l'entendre. Entre-temps, il y a un sondage qui est sorti aux États-Unis, Marist, je ne sais pas si c'est connu, mais en tout cas, j'ai entendu parler de ça, que les hommes interrogés croient davantage Kavanaugh et les femmes interrogées croient davantage Blasey Ford, l'accusatrice. Déjà, les États-Unis sont un pays de plus en plus divisé au niveau politique, au niveau social, au niveau culturel. Voyez-vous,
il y a plus de candidates dans l'histoire maintenant pour les élections mi-mandat.
Mais pensez-vous qu'il va y avoir aux États-Unis que c'est un signe avant-coureur également d'un fossé qui se creuse entre hommes et femmes aux États-Unis où la question sexuelle est une question éminemment politique, contrairement à d'autres pays?
je crois qu'il faut parler d'une plaie
oui.
à penser. La paix de l'abus sexuel des filles, des femmes qui elles, jusqu'à récemment, oui. n'osaient pas s'exprimer dans l'espace public.
Oui.
Or, cette plaie, toute la société américaine doit y faire face. La société n'était pas prête avec Anita Hill et Clarence Thomas. Et c'est pas parce que on l'accuse qu'il ne sera pas juge à la Cour suprême.
Mais oui, ça rien n'est fait
encore. Je vous assure, on a tout fait pour descendre Clarence Thomas. Mm. Et pourtant, il reste juge à la Cour suprême. Celui qui est le plus silencieux, en passant, mais celui qui a formé le plus grand nombre de juges en cour d'appel, entre autres. Mais je crois qu'il faut signaler aussi que Brett Kavanaugh, il a fréquenté le même lycée privé que Neil Gorsuch.
Oui.
Or, on est là dans l'élite américaine, au point de vue des études, au point de vue de la culture, au point de vue des diplômes et de l'expérience.
Oui, oui.
On est dans l'élite. Et ce qui frappe, c'est qu'on se fait-il que Neil Gorsuch mm-hmm. est passé. Parce que vous pouvez être certain, M. Trottier, que les démocrates, les libéraux, les progressifs ont tout fait pour contrecarrer la nomination de Neil Gorsuch. Or, pour les Américains et les Américaines, les enjeux sont plus grands que nature. On parle de Roe contre Wade.
Ça fait 43 ans. Ça,
moi, j'étais à l'Université de Californie, à Berkeley, oui. quand c'est devenu... Mais c'est la précédence... ça fait jurisprudence. Or, on va remettre en question la jurisprudence sur l'avortement.
Oui.
Alors, les enjeux sont, c'est la moralité, c'est cette éthique et c'est foncièrement religieuse
mais,
aussi.
Justement, dans un pays, les États-Unis, d'où est partie la révolution sexuelle aussi dans les années 60, on a l'impression que c'est un pays qui devient ultra-conservateur, tant à gauche qu'à droite.
Mais
la question sexuelle ne sera jamais réglée dans ce pays, il me semble.
Très bien, quand on a...
Deux minutes.
Et je rappelle que la Cour suprême était fortement divisée dans ce jugement Roe contre Wade. Et je me souviens, comme c'était hier, là tout le monde disait « Mais le pays va au diable, on s'en va en affaires, on va tuer des enfants dans les fœtus. » Mais je tiens à signaler que c'est qu'on a légalisé à travers tous les États-Unis l'avortement dans le premier trimestre seulement. Mais par la suite...
Et pour des raisons de santé surtout.
Les démocrates sont venus... subventionner les avortements, mm-hmm. puis on a élargi. Or, le mouvement conservateur, c'est comme un redressement. Et en parlant de révolution sexuelle, ça s'est passé ici au Québec avec la Révolution tranquille.
Ensuite, c'est pas nous qui avons...
La Révolution tranquille est le versant de ce qui s'est passé aux États-Unis avec cette révolution sexuelle
Alors,
et des mœurs.
Alors, ma dernière question en 30 secondes, mm-hmm. Normand Cornette, malheureusement, est-ce que l'Occident redeviendrait ultra-conservateur, qu'il soit à gauche ou à droite, en matière de morale sexuelle? Parce que ça attire la presse, tout le monde. C'est un des sujets les plus vendeurs, mais les plus auxquels on est le plus sensible, l'opinion publique.
Je ne saurais dire, je ne suis pas prophète, mais...
Oui, professeur, ça va très bien.
Quand on verse dans l'excès,
oui.
Or, le mouvement conservateur aux États-Unis estime qu'on est allé trop loin.
D'accord.
Il y a une ouverture, mais... il faut établir les balises.
En tout cas, ce qui se passe maintenant aux États-Unis est passionnant. Vous allez certainement revenir pour parler de ça parce que nous vivons des moments extrêmement chauds, malheureusement sans doute. Mais en tout cas, on vous réinvitera pour commenter l'actualité états-unienne dans pas longtemps. Merci beaucoup, Normand Cornette.
Merci à vous, Monsieur Trottier.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de bienheureuse Émilie Gamelin à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci, je vous dis à demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.